Socks of Pole Hip Hop. Peace.
Oui, pour acheter tes billets pour le festival Vue sur la Relève qui fête sa 23e édition.
C'est quand?
Du 8 au 19 mai.
Oh, c'est où?
Au Monument National et au Ministère sur la rue Saint-Laurent. Il y aura même des spectacles extérieurs gratuits à la place des festivals.
On est Minuit moins une théâtre et on participe à Vue sur la Relève, festival pluridisciplinaire présenté par Québecor.
On vous attend. Billets, vuesurlarelève.com.
Pool Hip Hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca.
La carte Campus Quartier Latin, c'est des rabais instantanés dans 20 commerces participants. Viens chercher ta carte gratuite devant les locaux de choc.ca et économise partout sur ton campus étudiant, le campus étudiant. Pour plus d'informations, latin.ca dans la section Privilèges étudiants.
Les cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur choc.ca. Branche-toi.
Tous les mardis à 20h au Théâtre Sainte-Catherine, c'est la soirée Art Machine. Venez découvrir le show le plus éclectique en ville. Humoristes, musiciens, clowns, artistes burlesques et autres what the fuck se partagent la scène du Théâtre Sainte-Catherine. Venez vivre avant de mourir. Le tout est accompagné du house band The Firing Squad. 10$ prix régulier, 7$ prix étudiant. Le Théâtre Sainte-Catherine est situé au 264 Sainte-Catherine-S, à deux pas du métro Berry-UQAM. Les portes ouvrent à 19h30, show 20h.
Art Machine.
Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca.
Bonsoir ou bonjour, c'est Oxmo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. C'est pour ça que ça bouge comme ça.
Croyez-vous que les médias ont une part de responsabilité dans votre défaite?
Pas du tout. Les médias ont toujours raison. Les médias ont toujours raison.
Bonsoir à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Vous écoutez La Faute aux médias sur les ondes de choc.ca. Ce soir à l'émission, nous avons une équipe très diversifiée, très nombreuse. Nous avons Camila Rodriguez, CA, Étienne Tardy-Paradis, Myriam Bernet et si Jean-Paul, ainsi que moi-même, Émilien Roscanou. Nous avons même Camila Junior, en fait, Daniela Rodriguez, CA, qui nous assiste en studio. C'est son introduction.
Salut.
Bonsoir Daniela. Bonsoir. Coucou. Tout le monde.
Allô.
Bonsoir.
Donc ce soir, on parle de quoi? On parle de racisme inversé. Qu'est-ce que c'est ça, le racisme inversé? Ça existe-tu? En fait, le terme existe, mais est-ce que ça existe dans les faits? On va le vérifier. C'est quoi le racisme inversé? C'est les Blancs qui pensent qu'ils sont victimes de racisme?
Ouais, c'est les Blancs qui subissent des oppressions racistes, qui subissent un racisme systémique qui est inexistant.
Similaire au sexisme inversé.
Exactement, exactement.
Le sexisme anti-homme.
Oui.
Le racisme anti-blanc.
Oui, les pauvres.
Oh
oui.
Non.
Oh.
Et je pense que c'est de penser aussi que le système peut aussi devenir contre les personnes qui l'ont créé aussi, carrément. Donc,
les immigrants volent nos jobs.
Ouais.
Bon, ben en tout cas, c'est de ça qu'on va parler ce soir. Donc, on va commencer tout de suite avec Étienne.
Alors, bonjour tout le monde. Apparemment, nul n'est prophète dans son propre pays, mis à part moi. Bon, je n'ai toujours pas de pays, mais toujours est-il qu'une de mes prophéties s'est réalisée. Il y a 2 semaines, jour pour jour, heure pour heure, émission pour émission, j'ai parlé de terrorisme inversé dans les médias. Et voilà, pouf! La thématique de notre émission aujourd'hui, le traitement médiatique des terroristes blancs. Certes, ce n'est sûrement pas la prophétie la plus époustouflante, mais vous savez, il n'y a pas de petites prophéties, mais plutôt des petits prophètes. C'est d'ailleurs le cas de Pierre Bruno. Le 31 janvier 2017, 2017 sur les ondes de TVA Nouvelles, ce dernier allait enclencher un éboulement de bouffonnerie, une tornade de saloperies, un raz-de-marée de conneries. Remise en contexte. L'animateur se permet la sortie suivante en parlant de l'attentat de la mosquée de Québec. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu venir. On aurait pu imaginer le contraire, qu'une communauté musulmane ou qu'un groupe extrémiste musulman commette un geste, mais que nous ou quelqu'un de chez nous attaquons les musulmans, c'est un terrorisme à l'envers, si vous me permettez l'expression. Tout d'abord, cela n'existe pas comme expression et non, on ne te permet pas. Le lendemain, Pierre Bruno revient sur ses propos. Il n'était aucunement dans mon intention de faire quelques amalgames que ce soit entre le terrorisme et la communauté musulmane. Je reconnais que mes propos aient pu prêter à une telle interprétation et j'en suis sincèrement désolé. Tous unis contre la violence. Le mal est déjà fait. Le venin démagogue devait se répandre dans les médias québécois et même au-delà, dans le monde politique. Le 4 février 2017, la députée péquiste de Taschereau, Agnès Maltais, nous gratifiait de ses paroles. Étonnamment, ici, c'est du terrorisme inversé. À première vue. Je dis bien à première vue. Parce que les attentats de Paris, de Berlin, visaient plus le monde de vie, le mode de vie, on dirait occidental. Avec le plaisir, le Bataclan et tout. Là, c'est une communauté musulmane en pleine prière. Ces malheureuses paroles peuvent porter à confusion pour la position, pour connaître la position de la députée. Heureusement, un an plus tôt, Mme Maltais affirmait en ondes « Il y a des gens qui trouvent que je suis islamophobe, hein? Mais vous le savez, alors que j'ai des amis musulmans. » Ouf, une chance qu'elle a des amis musulmans. Dans le cas contraire, il faudrait s'inquiéter. Parlant de s'inquiéter, la réaction du maire de Québec, Régis Labombe, n'avait rien à envier à la députée péquiste. Selon celui-ci, la tuerie survenue à la Grande Mosquée de Québec ne peut être assimilée à du terrorisme. Il semblerait que le maire a tenté de faire la part des choses entre les attentats perpétrés par des islamistes radicaux et la fusillade qui a fait 6 morts au Centre culturel islamique. Je dois revoir la signification de faire la part des choses car je suis perdu ici. Bref, dans une entrevue donnée au Journal de Québec, ce dernier s'est permis la pensée philosophique suivante. Moi, à Québec, c'est l'inverse. C'est un petit gars de la place qui l'a fait alors que c'est encore plus difficile à prévoir. C'est compliqué. Non, ce n'est pas du terrorisme, c'est le fruit de l'intolérance. Ça existe aussi. Analyste hors pair et psychologue aguerri, M. le maire a pointé du doigt la maladie mentale d'Alexandre Bissonnette. Mais il refuse un lien avec le terrorisme. Perception très intéressante pour une personne qui, de son propre aveu, souligne son ignorance sur ces questions telles que le démontre l'extrait suivant. Il y a eu des discussions à ce moment-là sur la terminologie, ce n'était pas du terrorisme, il faudrait que je regarde dans le dictionnaire, mais pour moi, ça n'en est pas. C'était le fruit de l'intolérance, ce n'est pas un terroriste ce gars-là, c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale et qui s'est alimenté à l'intolérance ambiante et sur Internet. Ce n'est pas du terrorisme ça. Allons voir la définition du terrorisme selon les Nations Unies. Idéologie, mais surtout ensemble d'actes violents et illégaux commis avec l'objectif de provoquer un climat de terreur au sein de l'opinion publique ou d'ébranler la force d'un gouvernement ou d'un groupe. Les terroristes utilisent les moyens suivants. Assassinat, attentat, prise d'otage, etc. Dans bien des cas, le terrorisme se développe dans un contexte particulier, c'est-à-dire lorsque les canaux légaux sont bloqués ou limités, du moins aux yeux des membres de l'organisation terroriste ou du terroriste lui-même. Si l'attentat de Québec n'est pas du terrorisme, je me demande bien ce qu'est du terrorisme. Dans cette optique, Denis Lortie ou Richard Bain ne sont pas des terroristes, mais simplement des personnes avec des problèmes psychologiques et avec un programme politique bien rempli, mais ça, c'est un hasard. Malheureusement, les exemples qui viennent d'être cités ne sont pas les seuls, et surtout, il ne s'agit pas d'une coïncidence. Beaucoup de questions restent en suspens. Pourquoi certaines personnes sont décrites comme terroristes et d'autres non? Pourquoi les médias accordent une couverture différente à l'un et à l'autre? Pourquoi Régis Labombe est encore un maire? Le maire de Québec. Ah, ouais. Oui, c'est vrai. C'est parce que l'opposition officielle est représentée par Jean-François Gosselin. Je n'ai pas de réponse à ces questions, mais plutôt une citation de Confucius qui, selon moi, est faite sur mesure pour certains journalistes, politiciens et politiciennes. Lorsque l'on se cogne la tête contre un pot et que cela sonne creux, ce n'est pas forcément le pot qui est vide. Il est plus que temps de se réveiller et de réveiller ses inconscients. Merci.
Merci, Étienne. Est-ce qu'on écoute une petite chanson?
Allons-y. On va commencer par En noir et en blanc de Calypso Valois. Je vous laisse écouter ça. Puis on en reparlera après.
Vous écoutez toujours la Photomédia. Nous venons d'écouter la chanson Blanc et Noir.
Oui, c'est ça, de l'album Cannibal, et c'est l'artiste, c'était Calypso Valois.
Ben, c'était très bon, une belle découverte ce soir.
Qu'on n'a surtout pas choisi au hasard.
Mais cette fois-ci, c'était même pas moi qui l'ai choisi.
C'est moi.
Mais c'était quand même un concept avec le thème de l'émission.
Mais c'est parce que je suis pas beaucoup d'imagination ce soir, là, que j'ai pris une chanson qui s'appelle Noir et Blanc.
On est tous fatigués, il y en a qui sont en fin de session, on s'excuse.
Et en même temps, si on veut célébrer la dichotomie du monde, la division entre deux, le bien, le mal, le noir et le blanc... Quel meilleur moment que ce soir pour le faire? J'en vois pas d'autre. C'est Je vais vrai. Vous laisser C'est continuer vrai. Avec des choses intelligentes. Merci.
Mais là, la barre est haute.
OK, Tiens, tu nous parlais justement de ces politiciens, politiciennes, journalistes, qui ne reconnaissent pas que les attentats commis par des Blancs soient du terrorisme, parce que le terrorisme, c'est l'affaire des autres, c'est l'affaire des Arabes, c'est l'affaire des musulmans, c'est l'affaire des étrangers.
Ben, y a vraiment la conception, je crois, et encore plus d'ailleurs quand c'est quelqu'un qui vient du lieu où l'acte s'est produit, il y a vraiment cette idée-là que c'est que à la télévision, dans le monde extérieur. Donc il y a vraiment, d'après moi, une image chez les politiciens et politiciennes, ou encore dans les médias, que ça peut pas se produire chez nous. Alors ça empêche un espèce de développement ou la pensée de plus critique, de dire pourquoi ça arrive chez nous. Puis là, on parle de terrorisme, on peut l'appliquer à d'autres choses, mais ce qui est intéressant avec le terrorisme, c'est qu'on bloque complètement ce mot-là, on dit non, ça peut pas arriver, c'est pas ça, c'est un problème psychologique X, Y, Z, alors que, bon, c'est définitivement du terrorisme. Alors, ce que je voulais apporter dans ma chronique, c'est de poser la question suivante, de dire pourquoi on n'est pas capable de pousser, évidemment, il y a des gens qui le font, mais de pousser la pensée plus loin et de se dire pourquoi il y a du terrorisme chez nous, qui se font par des gens de chez nous, et c'est très possible et c'est très probable d'ailleurs.
Oui, et toutes les sortes de terrorisme. Je veux dire, l'attentat qu'il y a eu contre les deux militaires, là, je me souviens plus dans quelle ville au Québec.
Oui, c'était fait par Bibo, certains Bibo.
Un certain Bibo.
Oui, ben c'était à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Sur Richelieu, ouais. C'est ça. Puis, tu sais, il y a des attentats commis par des Blancs au nom d'une idéologie X ou X, c'est quand même du terrorisme.
Puis j'ai l'impression que souvent, tu sais, à ce moment-là, c'est, tu sais, quand il y a des attentats de ce genre-là qui se fait, là, on remet en question, là, le milieu d'où qui vient. Là, ça devient du constructivisme beaucoup plus rapidement que quand on prend, par exemple, des personnes ethnicisées ou des personnes racisées.
Mm-hmm. Bissonnette, points. Ils vivaient des drames.
Ben, genre, tu sais, tout le temps.
C'est tout le monde vit des drames. Oui, évidemment, il faut vivre des drames si tu t'en es rendu au point où est-ce que tu arrives avec un fusil puis tu tues des gens.
Quand t'es blanc, tu sais.
C'est ça. Non, mais n'importe qui, même les musulmans qui font des crimes au nom de comment ça s'appelle, l'État islamique.
Effectivement.
Genre, eux aussi vivent des drames. C'est comme, c'est pas une explication. Ça nous avance à rien. Mais je pense que c'est quand même important de remarquer à quel point on a eu, tu sais. Depuis le 11 septembre, il y a une construction dans les médias comme des terroristes, des personnes arabes comme étant en fait des terroristes ou des méchants. Puis ça, on le voit là beaucoup dans les films, c'est toujours l'arabe ou la personne qui a un accent arabe qui va être le méchant. De la même manière que pendant la guerre froide, c'était les Russes tout le temps les méchants systématiquement. Quand un film d'Hollywood qui date de l'époque de la guerre froide, ben à ce moment-là le méchant c'était le Russe. Puis donc,
là, ça va redevenir le Russe.
Ouais, sous peu. On ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient. Mais bref, c'est ça. Donc, du moment qu'il y a cette association-là qui est faite entre la personne musulmane et le terrorisme, parce que c'est maintenant rendu ça, c'est le terroriste dont on a peur. Là. Ça peut toujours être ça le cas. Je pense qu'il y avait comme l'armée rouge ou bon, plusieurs autres concepts.
La guerre nucléaire.
C'est ça, exact. Mais là, maintenant, c'est vraiment le terroriste.
La peste noire.
Puis, on se rend compte qu'on est incapable de détacher ce mot-là de toute le folklore qui a été associé par les médias. Puis, ben, les preuves maintenant sont claires. Elles sont clarissimes qu'on est incapable de penser le terrorisme sans l'associer à l'image de quelqu'un qui est arabe. Puis donc, les gens qui sont pas arabes sont pas des terroristes. Puis c'est dangereux, parce que tu le mentionnais tantôt, le terrorisme, c'est quoi? C'est vouloir terroriser, c'est vouloir faire peur. C'est que quand j'arrive pour aller aux États-Unis, je me dis, merde, j'ai peut-être envie d'aller ailleurs au Canada à la place de voyager aux États-Unis, parce que j'ai peur de qu'est-ce qui pourrait m'arriver, puis que les gens s'empêchent de vivre, puis que les gens soient dans un état perpétuel de regarder derrière leur épaule, de dire, oh, je suis dans le métro aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait arriver? Puis bon, c'est ça le terrorisme. Puis ça, ben, on n'a pas besoin d'avoir d'origine particulière pour pouvoir faire ça. Là.
Le problème aussi, c'est qu'avec des actions comme ça qui, pour le commun des mortels, ne font aucun sens, tu sais, une personne qui a des armes puis qui assassine des innocents, ça fait pas de sens. Pourquoi est-ce que ça arrive? Donc souvent, on va dire facilement, puis dans ce cas-là, c'est Le problème, c'est qu'on se dit, ben, cette personne-là doit être détraquée quelque part. Puis c'est clair qu'il y a tout un processus de radicalisation qui fait en sorte que ces personnes-là ne sont plus dans la norme. Mais souvent, le fait de sortir de la norme, ben, on qualifie ça de, quand il s'agit de blanc, de folie, de détraquée, c'est une maladie mentale, etc. Tandis que quand c'est des personnes...
Ah, oh ben là, vous vendez ma chronique.
Non, je m'excuse. Je m'excuse.
C'est pas grave, mais c'est drôle parce que dans les traitements médiatiques, justement... excusez-moi, je t'ai coupé, puis j'ai pris la parole. Dans les traitements médiatiques, c'est drôle parce qu'on m'a interrogé le voisinage. Le voisinage est comme, mais voyons, c'est un petit gars bien normal. Il disait bonjour, mais vous attendiez à quoi, genre?
Non, non, c'est clair.
Qu'il sortait un drapeau en disant, je vais tuer du monde, je vais faire un acte terroriste.
En mais parce cas, que bref. Dernièrement, c'est arrivé aux États-Unis, mm-hmm. surtout que les personnes qui font mm-hmm. du terrorisme, ils le disaient, c'était comme pas secret, c'était
mais c'est ça, le pire,
oh
c'est...
regardez
ça,
je
c'est
me suis
pire,
c'est ça,
pas pris au
genre
sérieux.
Partager des tutoriels de faire des armes, ouais. dire oh vous allez voir, je vais tous vous faire exploser un jour ou l'autre, c'est comme c'est clair, c'est assez clair. Fait que oui, effectivement, la majorité des gens le disent pas là, mais je tenais quand même à mentionner que aux États-Unis, ben ils commencent à le dire, puis personne les écoute. Puis d'ailleurs, si je peux me permettre, j'écoutais dernièrement dans un podcast qu'il y a des liens qui ont été faits entre le terrorisme, en fait, les hommes qui font des actes de terrorisme, c'est souvent des hommes, ont des passés violents, de violence envers les femmes, violence conjugale. Puis ça démontre à quel point cette agressivité-là ou cette capacité, cette volonté destructrice a toujours été présente chez la personne, ou en tout cas depuis un moment, puis que comme on prend pas ça au sérieux, parfois, ben, ça dégénère de cette façon-là. C'est comme une preuve de plus de se dire, ah, ben, tu sais, c'est pas grave, c'est pas un problème de société que les hommes soient violents envers les femmes, ben oui, oui, ça l'est.
Mais est-ce que ça... que les gens le réalisent.
Puis pas que à cause du terrorisme, non, mais ça mène parfois à ça, puis on fait comme si on n'avait pas pu empêcher ça. On fait comme si c'était inévitable, il était fou de façon toute seule. Puis c'est ça le danger aussi, c'est qu'on traite les gens comme lone wolf, là, des tireurs isolés, c'est ça?
Mais on leur enlève toute agentivité. En fait, c'est ça qu'ils veulent faire. Ils veulent vraiment tuer des gens, puis on leur trouve des excuses qu'ils veulent même pas parfois. Mais j'en parle dans ma chronique un petit peu.
Bon, mais tant qu'à parler de ta chronique, Myriam,
ben là, on a des sujets très proches.
si on se dirigeait vers elle, justement.
Donc, oui. Alors que je faisais défiler paisiblement les informations plus ou moins pertinentes qui se trouvent sur mon mur Facebook, n'ayant en tête que l'envie de procrastiner quelques minutes, je tombe sur un article de la presse avec le titre suivant. Bissonnette prenait un antidépresseur lié à des cas de meurtre et de tuerie. Et croyez-moi, c'est bien la première et la dernière fois que vous m'entendez prononcer son nom, parce que je refuse de lui donner plus de place. Bref,
merci.
Je lis le titre de cet article et mon sang ne fait qu'un tour. Je me demandais justement, quand est-ce qu'on va voir apparaître ce genre de traitement médiatique pour ce terroriste qui a abattu 6 hommes, a fait 5 blessés graves et davantage de vies brisées dans une mosquée de Québec il y a maintenant un peu plus d'un an. Évidemment, je ne me contente pas du titre de l'article et je clique dessus. Et on apprend que le terroriste avait commencé à prendre un certain type d'antidépresseur qui est suspecté d'avoir joué un rôle dans un grand nombre de meurtres et de tueries. On a donc toute une présentation de l'antidépresseur en question avec des témoignages, des exemples, jusqu'à la fin de l'article qui s'achève en disant que la prise de certains antidépresseurs est un facteur qui peut être pris en compte par un tribunal. Un autre exemple de traitement médiatique humanisant, dans ce cas, un article qui est publié dans le Journal de Québec et qui relate que l'accusé en question plaide coupable et précise le concernant. Il a tenu le coup tout au long de l'audience. Il a parfois essuyé une larme, sans plus. Toutefois, dans les dernières minutes de l'audition, lorsqu'il a été dit que la vidéo de la tuerie serait présentée dans le cadre des observations sur la peine, il a craqué. Alors, que dire? Cet aperçu n'est qu'un des nombreux exemples, et on se souviendra d'ailleurs, non sans douleur, de l'utilisation du malheureux terrorisme inversé de Pierre Bruno après l'événement.
Mais justement, c'est cette façon de d'écrire dans les journaux, mm-hmm. on le voit dans ces cas-là sur le terrorisme, mais on le voit aussi souvent dans les cas de judiciaires,
oui.
de violences faites aux femmes,
exactement,
notamment
oui.
des cas c'est... de viol,
exactement.
Où les journalistes, peut-être sans s'en rendre compte ou sans être sensibles à ces situations-là, mm-hmm. font l'erreur monumentale de
d'appeler ça un crime passionnel.
De s'apitoyer sur le sort de l'accusé.
Ouais, ouais. Il l'a essuyé trop, l'arme, il l'a tué. Ah bon?
il recevait des bourses scolaires. Il était le premier de sa classe. Mm-hmm. Il avait beaucoup d'amis. Mm-hmm. Il avait un avenir prometteur X.
Mais ça,
on
oui.
s'en fout.
Mais oui.
Il l'a violé, il a commis
mais
des violences.
Écoute, c'est ça me rappelle justement un texte que j'ai eu à lire pour un de mes séminaires cette session sur le cas du meurtre d'une jeune femme autochtone en 1995. La femme s'appelait Pamela George. Et en fait, tout le texte relate l'ensemble du procès, ces 40 pages où on nous dit comment ça s'est passé et pourquoi il y a eu pourquoi on a mis en valeur, en fait, les assassins étaient deux hommes blanc, jeune, universitaire, athlétique, de famille aisée. Et ça montrait pourquoi ils ont été privilégiés dans ce procès-là et que Pamela George n'était considérée même pas comme un être humain, aucunement comme un être humain, mais comme un objet, comme quelque chose de « Oh, c'est, oh non, tu vois, tu l'as tué, oh, qu'est-ce qu'on va faire ?» En tout cas, bref. Et ça montrait, ça illustrait exactement ce que tu as dit. C'est vraiment aussi une question beaucoup de privilèges. Et là, je m'enligne vers la suite de ma chronique. Donc, vous savez de quoi je parle. Il s'agit bien d'un traitement médiatique de poids, de mesure. J'ai pas assez d'une chronique, malheureusement, pour faire le tour de tous les cas proches de celui du terroriste de Québec. Mais je veux aussi vous donner l'exemple du terroriste de Charleston qui a ouvert le feu dans l'une des plus anciennes églises noires des États-Unis en 2015, tuant ainsi 9 personnes. Pourtant, aucun doute à son sujet. Hein. Il y avait des photos qui circulaient. Là, comme on disait tout à l'heure avec Camilla, par exemple, mais il était fier. C'était un suprémaciste blanc. Il a même déclaré par la suite vouloir lancer une guerre raciale. Alors, aucun doute à son sujet. Là aussi, on a eu un traitement de poids de mesure. Parce qu'il y a des médias qui refusaient, en fait, qui n'appelaient pas ça du terrorisme. Alors, ça aussi, il faut m'expliquer. Donc, je pense que vous avez remarqué que lorsqu'il s'agit d'un suspect non blanc ou blanc, le traitement médiatique est différent, que lorsqu'il s'agit d'un attaquant blanc, c'est automatiquement un forcené, un déséquilibré, et les médias prennent des pincettes pour employer le terme de terroriste, même si je trouve que ça tend à s'arranger un petit peu. Et dans le cas inverse, quand il s'agit d'une personne racisée, il n'y a aucune hésitation.
Oui, mais c'est comme, ça me fait penser aussi au cas de la Polytechnique, là.
Oui.
Tu sais, c'était vraiment, il y avait une idéologie derrière les actions du tireur, mm-hmm. Puis sa volonté était clairement misogyne.
Clairement.
Dans sa lettre, il l'expliquait, il l'explicitait.
Exactement, oui. Mais pourtant...
On a trouvé 12 000 façons de lui enlever la responsabilité.
C'est ça, puis exactement, puis nous, on se disait, ben, tu sais, c'est tellement fou comme concept, mm-hmm. De vouloir tuer des femmes qui veulent être ingénieurs. C'est tellement bizarre comme concept que il devait être un fou furieux. Mm-hmm. Mais parallèlement à ça, on trouve pas ça bizarre que des gens veuillent faire l'État islamique puis appliquer la charia, dans le sens que comme si c'était normal pour un musulman de vouloir appliquer la charia à coups de balles de fusil. Mm-hmm. Ce n'est pas normal, ce n'est pas un état normal du musulman d'être un terroriste, de la même manière que c'est pas normal pour un homme de vouloir assassiner des femmes qui veulent avoir des professions, mm-hmm. Disons des bonnes grosses professions là,
qui sont en majorité,
ouais c'est ça, majorité hommes, ouais. Là, puis mm-hmm. Très très bien payés là.
Non, effectivement, j'ai eu cet exemple aussi en faisant des recherches pour ma chronique, en l'écrivant, j'ai pensé à ça aussi, évidemment. Alors là, pour le coup, par rapport à notre sujet, peu importe que l'attaque soit revendiquée ou pas, nous sommes bien ici dans un traitement racialisant et raciste. Et dans le cas du terroriste de Charleston, en fait, lui-même a affirmé qu'il ne souffrait pas de problèmes mentaux et il a refusé ce qui s'apparente à une certaine porte de sortie. Son avocat lui a fait la proposition, il a refusé en disant « Non, je ne suis pas un malade. Oui, je voulais lancer une guerre raciale. » Donc, pour conclure, moi, je vous mets au défi, donc vous autour de la table ou les personnes qui nous écoutent, de trouver des traitements de ce calibre, c'est-à-dire très humanisants et presque compréhensifs pour les personnes racisées accusées d'actes de terrorisme. Vous risquez de chercher longtemps.
Tu vois, moi, je trouve ça vraiment intéressant, le sujet que t'apportes, parce que je me rappelle la dernière semaine, là, quand il y avait des petits communiqués, je recevais les notifications, justement, concernant, bon, on se disait Alexandre Bissonnette et plaide non coupable. Oui. Déjà, sur le coup, j'étais comme, ben voyons donc, comment tu peux, comme, vraiment te défendre là-dessus? Puis quelques jours après, il a changé son plaidoirie de culpabilité pour être coupable. Et puis... C'est fou parce que je recevais les notifications une après l'autre. Mm-hmm. Donc là, t'as ça, après t'as... Il s'excuse vraiment beaucoup. Et après, il y a une lettre, il a écrit une lettre aux familles.
Ouais, il a écrit
mais c'est... Ça, oui. Écoute, j'ai pris le temps de lire cette lettre et j'étais comme, mais est-ce que tu penses... Après, il y a des gens qui vont le croire, tu sais. Mm-hmm. Mais est-ce que tu penses vraiment... Là, moi, je lis ça et je trouve ça vraiment dégueulasse.
Est-ce que tu pourrais nous résumer le contenu de la lettre?
Ben en fait, ça fait un moment, je l'ai lu. En fait, il s'excuse profondément d'avoir...
Ouais, il s'excuse aux familles. Il dit qu'il plaide coupable pour que les familles n'aient pas à revivre le
exactement.
Drame. Et est-ce que c'était un acte islamophobe, selon lui?
Il se dit
non,
pas islamophobe.
Non, il se dit pas islamophobe. Non, pas vraiment pas.
Mais ouais. En même temps, tu sais, il n'a pas été accusé de terrorisme non plus. Ça, en soi, c'est un gros problème, là, de la part du système judiciaire.
Ouais, mais c'est terrible.
Les
comme
chefs d'accusation sont meurtres prémédités. Je pense 6 meurtres prémédités, 5 tentatives de meurtre prémédités. Il n'y a aucunement terrorisme... Ouais. Mais
au niveau de la justice, il y a quelque chose de vraiment intéressant, puis un processus qui part des avocats qui défendent, par exemple, ces cas-là, que ce soit pour Bissonnette, d'ailleurs, ou n'importe quel autre. L'idée de vouloir répandre l'idée, justement, de dire qu'il y a un problème psychologique. Mm-hmm. C'est une technique juridique, c'est d'essayer d'offrir le moins de temps de prison, etc. Mm-hmm. Mais... À partir de ça, il y a aussi le fait que ça coule dans les journaux. Mmh. Après, les journalistes reprennent ça pour eux. Bah, c'est sensationnel.
Ouais, oui, alors, ça fait après, cliquer. Hein, on n'oublie pas le clickbait.
Ouais, il y a ça. Mais après, c'est repris par des politiciens qui trouvent des affinités politiques. Donc, tout ça pour dire que ça part d'un événement. Et après, c'est repris par les uns et par les autres. Alors... Oui, il y a un problème de société, mais il faut aussi voir que c'est peut-être instrumentalisé par des groupes d'intérêt, par
mais
des personnes.
Mais je pense que, oui, tu fais bien de le relever, c'est complètement instrumentalisé pour des intérêts politiques et quitte en fait à oublier ce qui s'est passé.
Effectivement. En plus, c'est tellement symbolique dans le sens que l'attentat s'est produit dans une mosquée, tu sais. Il n'est pas allé dans une épicerie, il n'est pas allé dans, tu sais, comme...
Non, il a choisi son endroit.
Oui, c'est très choisi, c'est très... Donc, tu sais, moi, en lisant ça, j'étais vraiment consternée. Puis c'est drôle parce que moi, depuis... En fait, tu sais, moi, je fréquente l'église et tout ça, puis c'est quand même une église assez multiculturelle. Puis c'est une question qui reste quand même dans la tête parce que c'est tellement une place symbolique. En plus que dans mon église, il y a beaucoup d'immigrants, beaucoup de communautés différentes et tout ça. Puis ça reste une proie très facile. Donc, c'est drôle que les gens, ils se sentent pas en sécurité, mais moi, je me sens pas plus en sécurité par le fait que je suis noire, par le fait que je fréquente quand même des endroits qui sont souvent multiculturels et tout ça. Donc,
ouais,
tu sais, c'est fou parce que d'un point de vue de l'autre, ben, je me sens pas plus en sécurité, tu sais.
Mais justement, je pense que isoler le problème comme ça en disant que c'est un forcené, c'est très dangereux en fait pour l'ensemble de la société parce que ça me peut déjà. Pourquoi je disais que je voulais pas redire son nom, c'est parce que déjà ça leur fait de la publicité entre guillemets et que ça il y a des études qui ont prouvé que ce serait vraiment vraiment mieux de pas donner autant de place aux tueurs et aux terroristes, bref. Et non, ça isole le problème, ça en fait qu'il n'y a pas de problème de société, puis il n'y a rien qui se passe. Il était isolé, il a pris des antidépresseurs, ça l'a rendu fou, boum, il rentre dans une mosquée et il abat du monde.
Alors c'est pas du tout le produit de sa société.
C'est ça, non, pas du tout.
C'est pas comme.
C'est le
seul islam. Tu sais, c'est comme. En même temps, à un moment donné, il faut se demander comment ça se fait qu'il a été tué des musulmans, puis il n'a pas été chez un fleuriste assassiner tous les fleuristes, tu sais.
C'est ça.
Est-ce qu'on a quelque chose contre les fleurs ou. Non, tu sais, c'est pas ça, notre monde.
Et pourtant, les pissenlits, je suis désolée, mais...
Ben, il n'y en a pas chez Floris, des pissenlits.
Ben, justement, pour conclure, avant une autre chanson,
oui.
Tu disais que c'est important de ne pas trop faire de place aux tueurs. Mm-hmm. Donc, je pensais peut-être rappeler le nom des victimes de la tuerie à la mosquée de Québec.
Oui, excellente idée.
Donc... les victimes étaient Ibrahima Barry, Mamadou Tanou Barry, Khaled Belkacemi, Abdelkrim Hassan, Azzedine Soufiane et Aboubakar Tabti. On écoute une chanson. C'était une très belle chanson qu'on vient d'écouter. Camilla, c'était quoi le nom de la chanson?
C'était une proposition de Daniela. L'artiste, c'est Rai. C'était tiré de son album Blood. Et le nom de la chanson, c'était Blood Nose.
Est-ce que c'était Manda Choc?
Oui, ça l'est.
Génial.
Comme toujours.
Daniela, tu connais des chansons dans notre liste d'artistes de Choc?
J'ai pas entendu Camilla les écouteurs.
Ah, Daniela, non, oui, elle en connaît quelques-uns, elle a une pas pire culture musicale.
Wow, ben tu devrais venir choisir nos chansons à toutes les émissions.
Pour qu'on arrête de les écouter, de les choisir au hasard, tu devrais venir, ma sœur.
Charles, tu es officiellement remplacé.
C'est ça.
Je répète, Charles, tu es officiellement remplacé.
Oh non!
Bon, ben on est toujours dans cette superbe émission sur un sujet très très léger qu'est le terrorisme, notamment le terrorisme blanc. Parce qu'il y a des
surtout
terroristes.
Surtout le terrorisme blanc.
Parce qu'il y a des terroristes blancs. C'est ça. Mais en fait, le sujet de notre émission, c'est allô, réveillez-vous.
Allô.
Ça existe, le terrorisme blanc. Donc voilà. En troisième chronique, nous avons Tessie Jean-Paul qui va nous parler de pourquoi il ne faut pas parler du racisme inversé.
Oui, donc si je peux tenter une piste de réflexion sur le sujet, parce que souvent les gens ils posent quand même des questions là-dessus. Pourquoi ça n'existe pas le racisme inversé? Pourquoi c'est quelque chose qui se dit pas? Pourquoi ça n'existe pas en fait? Donc moi je me réfère beaucoup au travail de Daniel Juteau dans son ouvrage Vision partielle et partiale, vision des minoritaires en sociologie. Donc moi j'ai eu la chance de lire un peu cet auteur-là, notamment dans mes cours d'immigration, mais aussi dans mes cours d'études féministes. Donc je pense qu'elle apporte vraiment une belle vision sur justement autant le côté des combats féministes que des combats antiracistes. Donc moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Si je viens de parler de Juteau, c'est parce que elle offre une analyse très intéressante, et à travers ça, il y a peut-être une partie de la réponse qu'on peut trouver dans ses écrits. Elle aborde l'essentialisation des individus racisés et les femmes. En effet, l'analyse de la sociologie moderne, on constate qu'il y a une réelle rupture dans la vision des minoritaires. Donc, la vision des minoritaires et des majoritaires n'est pas la même. Très souvent, on a comme juste une vision très partielle et effectivement partielle de comment on représente les minorités en sociologie, en politique, même dans les structures médiatiques. En revanche, nous pouvons constater que justement il y a une déformation au niveau historique des réalités des personnes racisées et des femmes. Puis ça, c'est un amalgame femme et personne racisée. Des fois, tu peux être les deux.
Ou comme quand on dit les minorités, les femmes et les minorités comme les femmes, des choses comme ça, là, les femmes sacrées minorités. Ouais, continue.
C'est ça. on observe souvent la chose qu'on voit, puis qu'est-ce qui est vraiment détaillé dans son ouvrage, c'est qu'il y a une réduction de l'individu à son caractère naturel. Donc, on revient toujours à son ADN, on revient à sa personne. Donc, les gestes qu'elle pose, donc si on parle, par exemple, de son comportement agressif, son comportement jovial ou le fait que cette personne-là sait bien danser, mais c'est toujours quelque chose, c'est un caractère qui dépend d'elle-même et non pas, des fois, de son entourage, de la culture ambiante et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui ramène directement à sa nature profonde. Donc, c'est de penser que les femmes, autant que les personnes racisées, ont une nature, ont un état naturel, une essence, que les hommes blancs n'ont pas. Donc, quand on parle, par exemple, de personnes noires qui sait bien danser ou de femmes qui sont plus organisées que les hommes. Donc, c'est vraiment des commentaires qui ressortent vraiment très souvent dans notre...
Mais tout ça, c'est pas vrai, tout ça.
Tout ça, c'est pas vrai. Non. C'est n'importe quoi. Donc, comment cette problématique-là peut être dangereuse? En fait, c'est parce que en faisant ça, ben, je pense que tout le monde le sait à la base, c'est que on vient apposer des étiquettes sur les gens. Donc, quand on dit que t'es un très bon danseur, ok, t'as une étiquette. Toutes les noirs sont bons danseurs. Ok, c'est le fun, tu le prends. Mais après, c'est que tu peux pas sortir de ce construit-là. Tu peux pas t'enlever cette étiquette-là. Et partout que tu vas, l'étiquette te suit. Donc, tu sais, là, je parle de danse. Ok, c'est pas méchant, tu sais, de dire ah, oh, tu danses bien parce que t'es noir. Mais par la suite, il y a d'autres commentaires qui peuvent venir à la suite de ça.
Non, effectivement. Ben, par rapport à ce que tu dis, moi, ça me rappelle beaucoup un livre que j'ai lu partiellement récemment, que je vous recommande vivement, de l'autrice américaine Bell Hooks, en fait, qui traite de l'esclavagisme noir et, en fait, des femmes noires, la situation des femmes noires qui vivaient une triple oppression de la part des hommes blancs, des femmes blanches et des hommes noirs. Donc, je pense que
ne
ça
suis-je
pose...
pas une femme?
Ne suis-je pas une femme? Exactement. Ouais. Exactement. And I a woman.
C'est ça.
De Bell Hooks. Mm. Et donc, je vous recommande vivement cette lecture qui est très difficile, mais ô combien indispensable. Mm. Et aujourd'hui, plus que jamais, on penserait que ce n'est plus d'actualité parce que nous ne sommes plus au 18e ou 19e siècle, mais malheureusement, oui. Donc, je pense que ça pose une très bonne base. Et même dans la même lignée, il y a Angela Davis aussi, qui est une afro-féministe états-unienne. Et si vous avez le goût de regarder un documentaire, il y a Ouvrir la voie d'Amandine Gay.
Exactement.
Que
ouais.
tu as vu,
ouais.
qui est excellent.
Ouais.
Mais Tessie, pour faire du pouce sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux stéréotypes, même quand ils sont positifs, je pense que parfois ils peuvent servir, même quand ils sont positifs, à construire, disons, une boîte autour des gens desquels tu le mentionnais, de laquelle c'est difficile de sortir, mais c'est une boîte aussi qui contribue à enfermer les gens. C'est-à-dire, quand t'es noir, tu danses bien, mm-hmm. mais t'es un petit peu paresseux. Mm-hmm. Puis bon, les Indiens, ils sentent les épices. Puis les Latinos aussi dansent bien. Mm-hmm. J'en ai jamais. Si ça c'est vrai, ça veut dire que j'ai jamais rencontré vraiment de Latinos. En tout cas,
ah bon.
Puis bref, disons que ces éléments-là mis ensemble bout à bout peuvent servir à créer une image un peu folklorisante des personnages, c'est-à-dire que on n'est pas en soi une personne, on est un peu le stéréotype ou l'histoire qui plane au-dessus de nous. Mm-hmm. Puis ça c'est dommageable quand au final ces stéréotypes-là nous remettent à une position dans la société. Dernièrement, j'ai vraiment remarqué que par exemple il y a cette culture-là par rapport au Mexique et donc par conséquent l'Amérique latine au complet, parce qu'on sait que c'est la même chose.
Ah ouais, c'est pas la même chose.
Non.
C'est le sud, non?
Ben, c'est le sud. Et la fête. Et donc, c'est des gens drôles, c'est des gens qui font la fête, qui sont sur le party. Puis, tellement que c'est ça la relation qu'on a avec le sud en général, pour aller passer nos vacances, aller faire la fête, et qu'on va à Cuba, on va dans un tout inclus, puis on va pas voir réellement c'est quoi le pays, c'est quoi son histoire, sa culture, et bref, sa richesse en tant que telle. Donc, même quand c'est positif, au final, ça peut finir par nous enfermer, puis c'est quand la dernière fois qu'on a réfléchi vraiment à des penseurs mexicains, qu'on a réfléchi vraiment à des façons de faire qui pourraient être différentes, mais positives, desquelles on pourrait s'inspirer, bref, de prendre ces gens-là, ces cultures-là, puis les mettre sur un pied d'égalité vraiment face à nous, là, pas les utiliser comme pays comptoir là, pour nos besoins, tu sais.
Exactement. Ouais. C'est ça. Et puis, à travers ça, je pense que j'avais une idée, mais là, je me rappelle plus. En fait, à travers ça, je pense qu'il est important de savoir que ces étiquettes-là nous suivent toute notre vie. Mm-hmm. Et même quand t'as pas nécessairement travaillé ou quand tu nais, en fait, il y a plein de stéréotypes qui viennent avec. Donc, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que tu disais sur Bell Hooks? Parce que moi aussi, j'avais lu le livre. Et puis, c'est vraiment là que j'ai compris d'où venait le stéréotype de cette femme noire qu'on dit souvent sexuellement débridée.
Oui,
là,
et forte, en fait.
Très forte.
Qui peut subir n'importe quoi, ça lui fera et pas grand-chose.
Et ça
grand
fera
chose,
rien, exactement. Ouais. Quasiment comme si c'était un animal.
Ah ouais, exact. C'est animalisant, exactement.
Et j'avais jamais compris pourquoi, avant d'avoir lu ce livre, lu ce livre. Donc, tu sais, puis surtout, quand t'as 16, 17 ans et qu'on te dit ce genre de commentaire-là et tu ne comprends même pas pourquoi, avant même que t'aies posé n'importe quel geste, t'as déjà une étiquette à ta vision, à ta personne. Ouais. Donc, c'est une image qui est très violente et que souvent, t'arrives pas à t'en détacher.
Mais il y a vraiment, t'as mis le point sur le doigt, pardon, sur le point.
Le doigt, c'est quelque chose
de vraiment intéressant. Les deux points, s'il faut. Mais que l'étiquette transcende probablement ta propre vie et que tu nais avec cette étiquette-là, ça me fait... j'essaie de faire une analyse vraiment courte, là, mais le mouvement anarchiste au milieu du 18e siècle a commencé à utiliser des méthodes qu'aujourd'hui on appelle terroristes. Dans le sens que eux, pour se battre contre l'État, en voyant très bien que ça ne marchait pas et que la guérilla n'était pas forcément possible en ville, du moins pas dans ce contexte-là, ont commencé à faire des attentats terroristes. Et à partir de ce moment-là, il y a une étiquette qui leur a été posée. Bon, celui que d'être anarchiste est forcément un terroriste. Mais avec le temps, ils sont un peu décollés de cette situation-là, et même, ça c'est en Europe ce que je suis en train de dire, et de l'autre côté de l'Atlantique, ou même en Amérique du Sud, il y a plein d'endroits où tu avais des communautés anarchistes qui, eux, se sont fait coller cette étiquette-là, alors qu'ils n'avaient jamais même pensé, puis probablement jamais connu des attentats terroristes.
Ils y avaient probablement pensé, soyons francs.
Mais non, pas forcément, parce qu'il y a différentes branches de l'anarchisme. Tu sais, c'est un anarcho-individualisme. Individualisme veut pas forcément faire la même chose qu'un anarcho-communiste. C'est pas les mêmes approches. C'est comme le libéralisme. Tous les libéraux sont pas les mêmes.
Non, je suis bien d'accord avec toi. C'est simplement une blague par rapport au fait que quand t'es tellement, à l'opposé de ce qui se passe comme façon de penser dominante dans la société, peut-être que des fois, t'as envie
plus,
d'avoir des actions plus radicales, des actions fortes et violentes parfois.
Ah, surtout, il y a même des groupes anarchistes, justement, ou des groupes qui remettent en cause le pouvoir établi, qui voulait faire des actions entre guillemets violentes, par exemple en posant des bombes dans des sur des symboles de la monarchie.
Mais François Ferdinand est assassiné par un anarchiste, la princesse Sissi également.
Puis je pense, si je ne m'abuse, là, en Irlande du Nord, il y avait eu un mouvement, le mouvement séparatiste, qui s'opposait au pouvoir de Londres, bref, qui a voulu poser des bombes. Puis à un certain moment, il y a eu un accident, puis une bombe a tué des civils. Puis ils ont complètement arrêté après, parce que ça servait pas leur objectif, puis qu'ils voyaient bien que c'était à l'encontre de ce qu'ils voulaient. Eux voulaient juste faire mal au symbole, mais pas à la population innocente.
Oui, absolument. Il y a quand même une idée derrière tout ça, mais toujours est-il qu'un attentat, bon, on peut pas toujours prévoir les dommages. Puis,
c'est ça.
Ben, bref, tout ça pour dire, revenir à toi, Tessie, que je trouvais ce que tu apportais était vraiment intéressant, l'étiquette, aussi la question de la minorité. J'en reviens avec les mouvements anarchistes, là, mais considérés minoritaires, on leur tapait dessus, la majorité pensait que c'était une menace pour elles. Mm-hmm. Alors bon, peut-être le parallèle est très grand, puis on peut certainement le critiquer, là, mais ces mouvements-là ont été ostracisés, il y a une étiquette qui est mise dessus. Aujourd'hui, bon, c'est pas, je pense pas que c'est exactement la même chose, mais il y a peut-être, comment dire, des faits à souligner ou à remarquer avec tout ça.
C'est ça. Puis je pense que, pour conclure, c'est que ces étiquettes-là, justement, comme tu dis, ben, ils ont une incidence sur notre identité puis la façon qu'on se voit nous-mêmes. Donc, c'est super dangereux. Et puis, la chose que je pourrais dire en terminant, c'est que je pense que c'est important en tant que tu sais, nous, c'est sûr que, bon, on est des universitaires de transformer nos façons de voir les choses. Tu sais, je pense que on a de la chance de le faire parce que justement on a les ouvrages pour le faire, on a réussi à avoir l'éducation, puis de se faire violence parce que des fois c'est pas évident, puis il y a des amalgames qui se font tellement rapidement dans nos têtes parce qu'effectivement on est bombardé par ça tous les jours dans les médias, dans tout qu'est-ce qu'on consomme, les gens autour de nous. Donc je pense que c'est important de continuellement se faire violence dans ce genre de sujet-là, d'essayer pas de se censurer, mais de parler et de voir les choses autrement. Donc,
absolument.
Voilà.
Ouais. Merci beaucoup, Tessie. En fin d'émission, on va profiter de la présence de Daniela, qui est avec nous ce soir pour nous parler un peu de la perception des attentats de terroristes de la part de personnes blanches dans les médias, pas dans les médias, mais dans les classes, dans les salles de classe. Donc, à quoi ressemblent les réactions? Qu'est-ce qu'on en dit dans les classes au Québec? Daniela Rodriguez-CA qui est parmi nous. Petit problème technique, non?
Salut.
C'était notre pont, je m'excuse, j'ai parlé sur le pont.
Tellement habitué à ce que je fasse des erreurs techniques que quand je fais des bonnes affaires.
Veux-tu remettre le pont, Camilla?
Non, c'est correct, je l'ai perdu. Continue.
Le pont est perdu, je répète, le pont est perdu.
Donc, Daniela,
oui.
Quelle est la réaction de tes professeurs, enseignants, enseignantes, quand il y a ce genre d'attentat?
Collègues de classe.
Ben, en fait, je veux dire qu'à la base, en classe, on n'en parle pas tant. Puis je pense que c'est à cause qu'il y a un certain malaise. Il y a un malaise à la base. Les profs sont malaisés, les élèves sont malaisés, ils veulent pas vraiment en parler. Je dois aussi dire que dans ma classe, parce que je suis au secondaire.
Okay,
dans ma classe... Dans ma classe, je pense qu'il y a comme 5 personnes racisées, dont moi-même. La plupart, c'est des bourgeois blancs. Je vais le dire, c'est des bourgeois blancs. Ils sont malaisés d'en parler. Ils veulent... Il y a comme...
Est-ce que tu sens qu'il y a un malaise que quand les gens ne veulent pas vraiment parler de, par exemple, terrorisme ou racisme parce qu'ils ont peur de dire des propos qui finalement vont être pas mal interprétés, mais disons que les gens connaissent tellement pas ce milieu-là, ces affaires-là, que quand ils vont en parler, ils vont faire des erreurs, ils vont dire des choses qu'ils auraient pas dû faire, puis ça va créer des incidents diplomatiques, là, puis que là, les parents vont pas être contents. Est-ce que tu penses que c'est dans ce genre de domaine-là?
Oui, mais aussi parce que les gens sont pas formés, mais sont pas habitués à parler ce genre de trucs. C'est surtout ça. Je pense que dans la classe, il y a peut-être genre 2 personnes qui sont vraiment politisées, moi puis mon ami. Puis on critique la moitié des trucs que les profs disent parce que c'est pas politiquement correct. Ça se dit pas. Puis je pense que, ouais, c'est ça. Ils sont pas habitués, puis ils ont peur des réactions des autres. Ils ont peur de créer une réaction. Ils ont peur qu'on parle de ce qu'ils ont dit. je me rappelle en éthique, on a fait une présentation orale sur les génocides. Puis il y a une équipe qui avait un génocide attitré, puis c'était celui des Amérindiens en Amérique. Puis tu sais, on avait beaucoup parlé des c'est dans le programme scolaire, mais on parle beaucoup des Amérindiens.
Et des maisons longues.
Exact. Fait qu'ils avaient envie de parler des Amérindiens et des Autochtones de l'Amérique du Sud. Mais en parlant, ils marginalisaient tellement ce groupe de personnes, ils marginalisaient toute cette communauté. Puis c'était tellement rabaissant. J'écoutais ça, j'étais fâchée. À la fin de la présentation, je lève ma main puis je fais « Ben là, ça n'a pas de bon sens ». Comme, sincèrement, moi, je les ai pas applaudis à la fin. Je dis ça, je les ai pas applaudis à la fin, mais ils méritaient pas d'être applaudis.
Parce que, pour mettre un peu en contexte, tu me racontais l'autre fois que les propos que tes camarades tenaient, c'était du style, en même temps, les Amérindiens, parce qu'on n'est pas rendu à parler d'Autochtones, ils avaient même pas des bonnes armes comme les Européens, donc ils méritaient de mourir, c'était les plus faibles. Puis ouais. En même temps, une chance que les Européens sont venus parce que ils ont pu leur montrer c'était quoi la vraie civilisation. Ouais, c'était exact. Ce genre de discours.
Puis il parlait des Européens comme si c'était genre les sauveurs, mais littéralement.
Mais c'est ça que vous apprenez aussi.
Mais c'est dans le programme. C'est ça qu'on apprend.
Tu m'as déjà dit que un de tes exercices d'histoire, ça avait été d'expliquer qu'est-ce que les Européens avaient apporté aux Autochtones.
Ben oui, ouais.
On peut s'en parler longtemps de ça.
Qu'est-ce qu'ils ont apporté?
La maladie, le meurtre, le viol.
Exactement.
La désolation, la guerre.
Tout ce que les personnes écrivaient, c'était des trucs comme les armes, la monnaie. Moi, j'avais écrit le viol, la maladie, des millions de morts.
Et
j'avais juste écrit des trucs comme
aussi,
ça.
Je pense que tu avais dit.
Hein?
Ils ont apporté le capitalisme aussi.
Ouais, aussi.
Ils ont apporté le capitalisme. Yo, Daniela, ils ont fire, là.
C'est une grande tragédie.
Clairement.
Bon. Mais est-ce que tu sens un stress, toi, quand on parle de ça? Parce que moi, je me rappelle, un peu plus jeune que toi, là, je devais avoir 13-14 ans, qu'on parlait d'esclavage là, à l'école. Là. Moi, je sais que je ressentais vraiment une espèce de boule dans l'estomac parce que moi, j'avais peur d'être, après le cours, par exemple, d'être pas intimidée, mais
visée.
Oui, c'est ça,
exactement. Puis là, tout le monde se retourne vers toi, genre, oh!
En secondaire 2, on en parle parce que c'est dans le programme.
En secondaire 2 aussi,
effectivement. Oui, en secondaire 2. Puis, je me rappelle deux de mes amis qui sont noirs dans ma classe, qui étaient dans ma classe, ils, tu sais, comme, entre eux, genre, on sent, même moi, je sentais le malaise, là, j'étais comme,
ouais,
c'est pas bien. Puis en même temps, je dois dire que mon prof, c'était pas, genre, le moins raciste non plus, mais il visait les personnes quand il parlait, tu sais, comme, ben pas qu'il les visait, mais il les regardait.
Ouais, c'est clair.
Il parlait, tu sais, il les regardait.
Mais tu sais, il y a tellement clairement une méthodologie à adopter quand tu parles de certains sujets, surtout à une classe avec des personnes qui n'ont aucunement les outils pour comprendre et réagir.
En plus,
tellement faire attention.
En plus, c'est des étudiants, genre c'est des enfants. Moi, j'ai pas mal mon idéologie de construite, mais
ouais, c'est
eux, ils savent pas. Ouais. Ils savent rien.
C'est très dommageable.
Les profs,
vraiment dangereux.
Les profs forment leur idéologie.
Mm-hmm. Oui, des problèmes, des lacunes dans la formation des professeurs, dans la construction de nos programmes éducatifs.
Ah oui.
Quand on parle pas de féministes, on parle pas de racisme, on parle pas de terrorisme. Tu sais, après, ils sont pas capables d'avoir une discussion non plus.
Ouais. Mm-hmm. C'est dommage parce que en 2009, j'étais au secondaire pendant la crise des accommodements raisonnables.
Mm-hmm.
Puis, dans ma classe, on était vraiment dans un espace... Je sais pas qu'est-ce qui faisait exactement que c'était un espace aussi accueillant, mais on était dans un espace où est-ce que, évidemment, si on parlait de musulmans, ben, tout le monde allait dire « Hey, mais toi, Mariam, qu'est-ce que t'en penses? Ah, mais toi, Zainab, qu'est-ce que t'en penses de ça? »
Tu obliges les gens à se découvrir sans qu'ils le sachent.
C'était vraiment un partage, dans le sens, à l'époque, où est-ce que t'as des réflexions, t'as des questions...
Mais est-ce que c'était
des questions candides de dire oui, mais pourquoi est-ce que tu portes le voile? Puis d'avoir un espace où est-ce qu'on peut vraiment partager cette connaissance-là.
D'accord.
Hein,
mais c'est safe space, en fait. C'est pas toutes les salles de classe.
Non, c'est ça, mais c'est parce qu'il faut pas voir les enfants comme des spécimens, mais juste comme des gens qui ont des choses à partager. Puis je pense que quand il y a de la confiance, on est capable d'avoir ces discussions-là.
Clairement.
sur ce manifeste politique, Camilla. Je vais remercier les participantes à cette émission parce que, voilà, c'est tout le temps dont on disposait. Merci d'avoir été là. Daniela Rodriguez-Sea, Camilla Rodriguez-Sea, Étienne Tardy-Paradis, Tessie Jean-Paul, Myriam Bernin ainsi que Mia Roscanou. On se revoit dans 2 semaines.